أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
اس آیت کا ترجمہ ہے
یقین اللہ معاف نہیں کرے گا assurément Allah ne pardonnera pas qu'on lui donne des associés, mais en dehors de cela, il pardonnera à qui il veut. Mais quiconque donne des associés à Allah commet en effet un très grand péché. Aujourd'hui, l'on se rapproche de son prochain grâce aux nouvelles technologies. Et des peuples profitent des inventions de ceux qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux. Ces contacts ont ouvert la porte au progrès, mais cela a aussi facilité l'expansion ou l'émulation des vices des autres. Puisque le mal, les futilités sont plus attirants, l'homme les adopte plus rapidement et avec plus d'ardeur. L'homme adopte ces mots plus rapidement et avec plus d'ardeur. Et en ce faisant, l'homme oublie son statut véritable. Il oublie aussi ses traditions. Il oublie dans quelle société il a grandi. Il oublie aussi sa religion. Il oublie aussi ce qui plaît et ce qui déplaît à Allah. Si c'est un musulman, eh bien, il oublie quels sont les buts de sa création selon Dieu. Par désir de modernité et en s'empêtrant dans le matérialisme, une personne qui est considérée comme pieuse peut tomber dans ses vices et dans ses maux. Et certains Ahmadis considèrent certaines pratiques comme insignifiantes, des pratiques dont les conséquences sont désastreuses. Il y a certains maux qui entourent l'homme de façon inconsciente. Certains de ces maux ne sont pas de simples vices aux yeux d'Allah, mais sont des péchés impardonnables. Et ce péché impardonnable, c'est le shirk, le polythéisme, un mal qui a été évoqué dans le verset que je viens de citer. Toute manifestation, même subtile, contre l'unicité de Dieu est inacceptable par Dieu. Toute manifestation qui est contre l'unicité de Dieu est inacceptable par Dieu. Un musulman qui se dit être un suivant de l'unicité de Dieu, un musulman qui récite la kalima, la ilaha illallah, se doit de comprendre les subtilités de la tawhid et les subtilités du shirk, du polythéisme, et de prendre de grandes précautions en ce monde où l'on ne respecte pas le tawhid et la personne de Dieu. Nous, musulmans Ahmadis, nous devons comprendre que nous avons prêté allégeance aux mains du Messie promis de l'imam de l'époque. Et la première condition de ce serment d'allégeance est comme suit. Le Messie promis déclare que l'initié doit promettre solennellement de s'abstenir du shirk, de l'attribution de tout associé à Allah jusqu'à sa mort. Voilà donc la première condition du serment d'allégeance pour entrer en Ahmadiyya, pour accepter cet islam véritable. D'aucuns peuvent dire que les musulmans récitent la kalima, la ilaha illallah. C'est vrai qu'ils récitent la kalima, mais l'Ahmadiyya est là pour inviter les musulmans vers l'islam véritable. L'Ahmadiyya est là pour inviter aussi les non-musulmans. L'Ahmadiyya est là pour inviter aussi les athées. C'est pour cette raison que l'abstention du shirk est la première condition du serment d'allégeance. Un musulman récite la kalima, la ilaha illallah, et il rejette le shirk, le polythéisme. Mais nous constatons qu'en général, les musulmans ne sont pas vigilants concernant ce shirk secret. Il est facile de dire que ce n'est pas là une grande condition pour les musulmans à accepter lorsqu'ils acceptent la Jamaat Ahmadiyya. Mais si l'on médite davantage sur cette question, l'on constatera qu'il y a beaucoup de ces musulmans qui sont coupables de ce shirk secret, même s'ils ne sont pas coupables du shirk ouvert. Certains vont jusqu'à se prosterner sur des tombes. D'autres ne le font peut-être pas physiquement, mais ils sont quand même coupables de shirk secret. En leur cœur, ils sont en train de nourrir ce shirk secret. D'autres, s'ils portent prier face à ces tombes, au lieu d'adorer Dieu, ils demandent à ce soi-disant saint qui est dans cette tombe. L'on a entendu plusieurs incidents de ce genre, que des femmes ont demandé à Dieu de leur accorder des fils, mais elles n'ont pas eu de fils. Mais lorsqu'elles sont parties implorer tel ou tel saint sur sa tombe, eh bien ce saint leur a accordé ce fils. Et puisque la plupart des femmes sont faibles de foi, et puisque généralement les musulmans ne sont pas enclins à respecter les règles des cinq prières quotidiennes, puisqu'ils ne sont pas enclins à implorer Dieu, c'est pour cette raison que la foi des femmes en particulier et des hommes en général faiblissent en Dieu après de tels incidents. Et certains perdent leur foi complètement en Dieu après de tels incidents. Et ils ont plus de foi en tel ou tel saint au lieu qu'en Dieu. Et les hommes et les femmes sont égaux dans de telles pratiques. Les cinq prières quotidiennes, la sola est un fardeau pour eux. Et la voie la plus facile, c'est de se prosterner devant ces tombes, c'est d'implorer ces saints afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Puisque de telles pratiques durent d'une génération à une autre, graduellement leur foi en Dieu commence à diminuer. J'ai lu le poème d'un hindou quelques jours de cela, dans lequel il est en train de mentionner ces innovations parmi les musulmans. Et c'est pour cette raison qu'il a eu le courage d'écrire ce poème. Il a déclaré que nous, hindous, nous demandons à nos déesses, à nos statuettes, telle ou telle chose. Les musulmans, quant à eux, se prosternent devant des tombes. Et que Dieu nous en protège, il est allé jusqu'à dire que nous considérons le saint prophète comme Dieu. C'est là une accusation infondée, une accusation des plus dégoûtantes contre un croyant véritable. Hormis le saint prophète Mohammed Mustafa, il n'y a pas et il n'y aura pas de plus grand porte-drapeau de l'unicité de Dieu. Hormis le saint prophète, il n'y a pas et il n'y aura pas de plus grand enseignant de l'unicité de Dieu. Et hormis le saint prophète, il n'y a pas et il n'y aura pas de personne ayant compris l'unicité de Dieu et l'ayant appliqué à sa vie. L'on comprendra la vérité quant à l'unicité de Dieu lorsqu'on accordera prééminence à Dieu. Et hormis le saint prophète Mohammed, qui d'autre a accordé cette prééminence à Dieu et qui d'autre a ressenti cette anxiété à cet effet? Même avant d'être choisi comme prophète, il passait des heures, voire des jours, dans l'adoration de Dieu. Il adorait Dieu en toute solitude. Dans une de ses prières, il fait comprendre son désir et son amour quant à Dieu. Il a prié en ce sens, Allahumma zukni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbahu indaka. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu wa ma zawaita 'anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibb. Ô Allah, accorde-moi ton amour et l'amour de la chose qui me fera profiter de toi. Ô Allah, accorde-moi de la force par l'entremise des choses que j'aime et accorde-moi ton amour par leur entremise. Et en retour des choses que j'aime et que tu as éloignées de moi, accorde-moi de ces choses dont tu aimes. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Dieu de lui accorder l'amour pour les choses qui lui plaisent à lui, c'est-à-dire qui plaisent à Dieu. Et il demande à Dieu que cet amour soit un moyen pour qu'il puisse progresser dans sa foi, pour qu'il puisse aussi progresser en son amour pour Dieu. D'aucuns disent que nous partons sur les tombes de ces saints parce qu'ils étaient proches de Dieu. Le Saint-Coran a condamné de telles pratiques. Le Saint-Coran déclare qu'il y a ceux qui adorent les idoles et qui présentent les mêmes arguments. Ces personnes disent que nous adorons ces idoles car nous allons atteindre Dieu par leur entremise. Ce point de vue est tout à fait erroné. Si ces personnes disent qu'elles ne sont pas en train de commettre des actes polythéistes, ces personnes doivent méditer sur la vie de ces saints. Si ces personnes étaient des personnes vertueuses, grâce à leur prière, ceux qui prient devraient se rapprocher de Dieu et ils n'auraient pas placé à pied d'égalité Dieu et ses saints et n'auraient pas dit que tel ou tel saint nous ont donné des enfants. En agissant ainsi, ils vont offrir l'occasion aux non-musulmans de critiquer l'islam. Ils vont offrir aussi l'occasion aux non-musulmans de critiquer la personne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à cœur la tarbiya de ses compagnons. Il avait à cœur l'établissement de l'unicité de Dieu. Il est allé jusqu'à dire que la moindre action ostentatoire est une forme de shirk. Si lorsque vous priez, vous êtes coupable d'ostentation, ce sera du shirk. Il a déclaré éviter le shirk qui est plus subtil qu'une trace laissée par une fourmi sur le sol. Les compagnons lui ont demandé comment éviter le shirk. Le saint prophète leur a récité cette prière. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ô notre Seigneur, nous implorons ta protection contre le fait de t'attribuer des associés en toute connaissance de cause, et nous implorons ton pardon contre cet acte commis inconsciemment. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix sur lui a toujours encouragé les musulmans d'éviter toute forme de shirk. Et il a lui-même déclaré que moi je ne suis qu'un être humain. Si quelqu'un était impressionné par sa présence, il lui disait que je ne suis que le fils d'une femme ordinaire. Dieu lui a demandé d'annoncer la même chose, à savoir Ana basharum mithlukum, je suis un être humain comme vous. Cet hindou a commis une erreur en disant que nous avons fait du saint prophète un dieu, n'a'udhu billah min dhalik, et que nous, c'est-à-dire les hindous, nous avons fait de nos idoles et des déesses des dieux, et nous avons accordé à Krishna le statut de dieu. En tout cas, sa déclaration que les musulmans ont transformé des tombes en dieux est tout à fait juste. Les musulmans doivent se soucier à ce sujet, car ils sont accusés de commettre le shirk. Les musulmans ordinaires ne pourront pas laver cette accusation. Mais il incombe à un musulman ahmadi que d'apporter des changements en ses actions et en ses états, afin que l'on puisse voir l'unicité de Dieu dans ses ibadas et dans ses actions. Afin d'annoncer au monde que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu établir l'unicité de Dieu. Et c'est en suivant le saint prophète que l'on pourra établir le tawhid. La situation des musulmans s'est empirée, et maintenant c'est par l'entremise du Messie promis, le serviteur du saint prophète, c'est en se joignant à sa communauté que l'on pourra s'acquitter de son devoir envers le tawhid. Cette responsabilité repose sur les épaules des Ahmadis. Cela a été évoqué dans la première condition de la Bayra. C'est là le but même de la venue du Messie premier, à savoir que l'on doit suivre son maître, le saint prophète, et établir l'unicité de Dieu. Il nous incombe donc de prendre maintes précautions et éviter toute forme de shirk, de polythéisme, même subtil. Le Messie premier nous prodigue des conseils dans son ouvrage Al-Wasiya en disant que Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, il veut qu'ils soient attirés vers le tawhid et il veut les réunir dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité et avec de bons exemples et d'incessantes prières. Cela fait donc partie des devoirs d'un Ahmadi, à savoir qu'il doit comprendre le but de Dieu. Il doit comprendre ce commandement divin. Il doit aussi comprendre les responsabilités que Dieu nous a confiées. Et il se doit d'être le soutien et l'aide de l'imam de l'époque et d'essayer d'établir l'unicité de Dieu par chacune de ses actions et par chacune de ses paroles. Il ne doit pas uniquement essayer de réunir les musulmans sous cette bannière, mais il doit transmettre le message du tawhid et réunir les non-musulmans aussi sous la bannière de la dîne wahid, de cette seule religion. Et la méthode à adopter ici a été évoquée par le Messie promis, à savoir que de faire preuve d'humilité, de bon exemple. Les gens doivent regarder vos qualités et se tourner vers vous en raison de vos qualités. Et le moyen le plus efficace, c'est la prière. Lorsque certaines innovations gagnent du terrain, elles éloignent de l'enseignement originel d'une religion. Et ensuite, les gens oublient l'enseignement qui a été envoyé par Dieu. Et dans la plupart des cas, ces innovations défigurent complètement la religion. Et ces innovations se posent en rival face à Dieu. Les religions d'antan ont perdu leurs enseignements originels en raison de ces innovations qui se sont immiscées dans leurs enseignements. Et personne n'est venu pour enlever ces innovations. Personne ne devait venir de toute façon, car c'est l'islam qui devait exister dans son état originel jusqu'à la fin des temps. Et celui qui devait venir, le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu et il a mis fin à toutes ces innovations. Et il l'a fait par l'entremise de cet enseignement véritable. Comme je l'ai dit, certains musulmans sont coupables de ces innovations. Et certaines de ces innovations et ces actions se sont transformées en shirk, en polythéisme. Cela s'est transformé en shirk secret. Mais dans d'autres endroits, nous voyons cela dans la forme d'un shirk ouvert. Et suite à ces promesses, Dieu a envoyé l'imam de l'époque et a protégé l'islam de ces shirks, de ces bidats, de ces innovations. Et Inch'Allah, l'islam sera à l'abri de ces innovations. en évoquant ces innovations qui sont présentes parmi les musulmans, en évoquant ces actions néfastes, le Messie premier l'Islam déclare dans un de ses ouvrages que notre voie est celle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. Les fuqara, les ermites d'aujourd'hui ont apporté des innovations, ces méditations, ces incantations, ces prières incantatoires qu'ils ont inventées nous déplaisent. L'islam nous demande de lire avec attention le Saint-Coran, d'agir selon ses préceptes et d'accomplir la salat avec attention, de prier avec concentration en se tournant vers Dieu. La salat est le seul moyen pour atteindre le miraj, c'est-à-dire la sommité de la spiritualité. Si on a pu acquérir cette soie-là, on a pu tout acquérir. Mettant de côté les innovations courantes que nous voyons aujourd'hui, le Messie promis a même qualifié d'innovation ses prières incantatoires et le fait d'accorder une importance déplacée à ses pratiques. Car en raison de ces innovations, on oublie l'essentiel. On oublie la salat qui est la première forme d'adoration de Dieu et on accorde plus d'importance à ces récitations, à ces innovations. Et cela se transforme en fin de compte en une action satanique. Le raconte l'histoire concernant un saint homme dont la sœur était pieuse, qui accomplissait des prières surérogatoires, qui accomplissait d'autres cela nawafil. Un jour, cette dame a accordé plus d'importance à ses zikr, à ses prières incantatoires. Et petit à petit, elle s'est écartée de ses prières surérogatoires ou de ses prières nawafil. Le saint homme a ressenti cela et sa sœur lui a dit que je me contente de répéter ses prières et ses incantations. Il lui a dit que cela est mauvais, mais elle ne s'en est pas souciée. Et petit à petit, elle a abandonné la prière tahajjud et s'est contentée d'accomplir le zikr. Son frère lui a dit que c'est Satan qui te pousse à accomplir ces zikr. Tu dois éviter de telles actions. Cela n'est pas en accord au précepte de Dieu. Si tu veux éviter telle action, alors récite la hawla wa la quwwata. Après quelque temps, cette dame a compris qu'elle a commencé à se détacher aussi des prières obligatoires. Et c'est là qu'elle a compris ce qui est en train de se passer et elle a commencé à réciter la hawla wa la quwwata illa billah afin de se protéger de Satan. Et elle a commencé à être régulière dans ses prières obligatoires. Et elle s'est tournée de nouveau vers les prières nawafil et la prière tahajjud. L'homme n'a pas une connaissance parfaite de toutes choses. Et il croit que certains de ses vertus ont de grands avantages et que grâce au zikr, il aura un grand statut. Certes, le souvenir de Dieu et le zikr sont fort louables. Mais il faut accomplir aussi les choses qui sont obligatoires selon Dieu. On doit suivre la sunna, l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, son exemple concernant les prières tahajjud et nawafil. Accorder une importance déplacée à ces pratiques et abandonner la sunna est tout à fait incorrect. Ces réunions où l'on fait le zikr peuvent être considérées comme louables, mais lorsqu'on dépasse un certain seuil dans ces pratiques, l'on se penche davantage vers Satan. La vraie vertu est celle qui a été préconisée par Dieu. La seule vertu est celle qui est important pour établir le tawhid. Certaines pratiques qui sont censées mener vers la vertu, mais se transforment en fait en innovation. Et ces innovations affectent la société, et ces innovations qui sont des prétendues bonnes œuvres détournent l'homme des actions qui sont obligatoires. Al-Ahmadi doit prendre des précautions à ce sujet et doit surveiller ses actions concernant ses devoirs, concernant les prières nawafil et tahajjud, des actions qui ont été préconisées par Dieu et dans la sunna. Et il doit aussi se tourner vers le zikr, et c'est là qu'il se transformera en croyant véritable. Un Ahmadi doit faire un djihad afin d'éviter ces innovations. Comme je l'ai dit au tout début, les nouvelles technologies ont joué un rôle important pour répandre certaines actions néfastes. Et sans réfléchir, certaines personnes commettent ces actions et encouragent aussi leurs enfants en ce sens. Et ils oublient l'esprit derrière pareille action. Et ils ne font que suivre le flot de la société aveuglément. Si l'on s'attelle à faire cette prière qui a été encouragée par le saint prophète, dans laquelle on demande à Dieu de nous protéger contre des actions que nous commettons par ignorance, et si nous demandons à Dieu de nous accorder son pardon, grâce à ce pardon de la part de Dieu, l'on arrivera à se protéger des mauvaises actions à l'avenir. Je veux mentionner ici une de ces autres pratiques pernicieuses que l'on va célébrer en grand fanfare ici en Occident dans quelques jours. Cette pratique, c'est le Halloween. Comme je l'ai dit, certains Ahmadis laissent leurs enfants participer dans de telles pratiques sans réfléchir. Mais si l'on regarde de plus près cette pratique, l'on constatera que c'est une innovation qui s'est immiscée dans la religion chrétienne et qui mène vers le shirk, vers le polythéisme. La Bible aussi a condamné ces actions sataniques, ces histoires de sorcières et de djinns. Mais ces choses sont entrées dans la pratique chrétienne car il n'y a pas eu d'action de la part des chrétiens. L'on considère cela comme un simple jeu d'enfant. Les Ahmadis doivent tout le temps éviter toutes ces distractions, tous ces jeux dont la base est le shirk, le polythéisme. Doivent éviter toutes ces distractions qui peuvent en fin de compte nuire d'une façon ou d'une autre à d'autres personnes. Je me suis penché sur cette question car la fille d'une des responsables de notre équipe de recherche lui a demandé la permission de porter des costumes le jour de Halloween. Elle a dit qu'elle ne va rien faire et se contentera de porter des costumes. C'était une toute petite fille. En tout cas, sa mère lui en a interdit. Et après des recherches à ce sujet, l'on a constaté certaines choses. Et je lui ai demandé de me présenter ces faits, des faits que je vais vous présenter ici. Car beaucoup d'enfants me posent des questions à ce sujet dans les lettres. Ils m'ont demandé si c'est mauvais de participer dans la fête Halloween et que leurs parents les empêchent d'y participer alors que les enfants d'autres familles Ahmadis participent dans cette fête avec la permission de leurs parents. Auparavant, je leur ai dit que ces actions sont fortes, déplaisantes et je les ai empêchés de participer dans cette fête. Après avoir compris l'histoire véritable derrière cette fête, il est très important pour les enfants d'Ahmadi d'éviter cette fête. Cette pratique ou cette fête que nous voyons en Occident a pour origine une ancienne pratique païenne de l'Irlande. En somme, cette fête a pour base des pratiques qui concernent le diable et les sorcières. C'est une fête qui nuit à la paix de la maison et aux croyances religieuses. L'on peut beau clamer que ce n'est qu'un jeu, mais l'origine de cette fête est négative. Et il y a aussi des formes de polythéisme qui y sont associées. Ils disent que le 31 octobre, la ligne qui démarque la séparation entre les morts et les vivants disparaît. Et les morts sortent ce jour-là et sont un danger pour les vivants, et ils essaient de nuire aux vivants. Ils apportent des maladies, et il y a d'autres histoires farfelues qu'ils racontent à ce sujet. Et déclarent que pour éviter tout cela, ils font appel à leurs druides. Ces druides ou ces sorciers immolent des animaux ou des récoltes en prenant ces choses de ces personnes. Et cela concerne aussi la pratique du feu de joie. Donc, ils font ces actions afin que ces morts ne nuisent pas aux autres. Ils essayent d'effrayer ces morts ou de leur plaire en faisant ces sacrifices. Et disent que pour effrayer ces morts, ils doivent porter ces costumes et ces masques. Lorsque le christianisme s'est répandu, ils ont adopté cette pratique et cela fait partie d'une des fêtes du christianisme. Cela concerne en particulier les catholiques. Grâce au christianisme et grâce à l'influence des médias, maintenant cette pratique prend de l'ampleur dans le monde entier, surtout en Occident, aux États-Unis, au Canada, au Japon, ici au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et dans d'autres pays du continent européen. Donc, c'est une pratique pernicieuse et les musulmans qui habitent ici en Occident sont en train de se tourner vers cette pratique. Les enfants portent des différents costumes et demandent quelque chose de la part des gens afin que les morts puissent vivre en paix. Si les gens de la maison donnent quelque chose aux enfants, cela veut dire que les morts ne viendront pas nuire à cette maison. Cela est une forme de shirk, de polythéisme. Vous pouvez dire que ce n'est qu'un jeu, mais l'origine de cette fête est païenne et polythéiste. Et cela va à l'encontre de la dignité d'un enfant Ahmadi que de se défigurer et que de partir dans des maisons pour demander comme des mendiants. Ils peuvent dire que nous demandons des chocolats, mais qu'émander quelque chose est mauvais. Les Ahmadis ont un sens de l'honneur et dès leur enfance, on doit insuffler ce sens de l'honneur en nos enfants. Toutes ces choses éloignent de la religion. D'aucuns peuvent dire qu'il n'y a pas de mal à jouer aux sorcières, au diable, à l'adoration de Satan ou de croire dans des pratiques occultes temporairement. D'aucuns peuvent dire qu'on peut accepter certaines de ces pratiques comme un jeu. Mais ce point de vue est tout à fait erroné. Ce sont des actions sataniques et nos enfants doivent éviter ces pratiques et on doit les en empêcher sérieusement. Dans un passé tout à fait récent, les gens de la campagne donnaient quelque chose aux enfants qui frappaient à leur porte car ils croyaient que s'ils ne le faisaient pas, les morts vont nuire à leur personne.
Bahrhal, kyunki bachche aur baaz unke bade bhi
Puisqu'il y a des questions à ce sujet, c'est pour cette raison que je dis que c'est une pratique pernicieuse, une pratique qui mène au shirk, au polythéisme, et les enfants doivent éviter ces actions, car sinon, au nom du jeu, les enfants vont avoir un comportement négatif à l'égard de leurs parents et des voisins. Ils auront un mauvais comportement à l'égard de leurs parents et des voisins. Et c'est pour cette raison que des crimes sont en train de prendre de l'ampleur. Car les gens sont plus enclin à commettre ces actions. En Occident, l'on permet toute action nuisible au nom des droits des enfants et au nom du jeu. Ils ont cette liberté, mais aujourd'hui, ils sont en train de condamner pareille action, car tout cela est en train de nuire à la moralité. Ceux qui sont contre la fête Halloween disent qu'au nom du jeu, les enfants sont encouragés à effrayer les autres. Et c'est pour cette raison que les crimes sont en train d'augmenter. Les films aussi ont donné une mauvaise éducation. Et si on laisse les enfants agir ainsi, au nom du jeu, et si on les encourage en ce sens, cela ne fera que nuire à la société. Et comme je l'ai évoqué auparavant, la chose la plus grave pour nous, c'est de mettre à pied d'égalité les morts et Dieu. Et ces personnes disent que pour éviter l'influence de Satan, ils doivent donner quelque chose. Donc, ils sont en train de commettre cet acte polythéiste. Ils donnent des cadeaux aux enfants afin de plaire aux âmes des morts. Ou le font par l'entremise des druides qui vont effrayer ces âmes. En tout cas, ce sont des concepts futiles et pernicieux. Il y a l'auteur, un certain docteur Grace, qui a écrit dans son ouvrage You and Your Child's Problem que le produit tragique de la peur dans la vie des enfants qui débute à la préadolescence est l'intérêt concernant les pratiques occultes et surnaturelles. C'est-à-dire que le produit tragique de la peur dans la vie des enfants et qui débute à la préadolescence concerne l'intérêt concernant les pratiques occultes. Ces choses ne s'arrêtent pas avec le Halloween, le fait de porter des costumes. Il y a certains grands enfants qui essayent d'effrayer les autres par force. Et ils commettent aussi d'autres actions. Conséquemment, ils nuisent à la paix de la société et ils sont aussi une source de soucis pour les parents et ils détruisent leur vie ici-bas. C'est pour cette raison que je demande aux enfants ahmadis d'éviter ces pratiques. Il incombe aux grands et aux petits parmi les ahmadis de renforcer leur lien avec Dieu, de reconnaître notre but et d'accomplir ces actions qui ont été préconisées par Dieu. Ne soyez pas complètement épris de l'influence de l'Occident à tel point que vous ne faites plus de distinction entre le bien et le mal ou d'oublier la relation avec Dieu et de commettre le shirk en secret et de commettre le shirk ouvertement. Qu'Allah nous en préserve. Le Messie premier, l'Islam, déclare que l'homme déclare qu'il peut rendre culte à Dieu. Mais est-ce qu'on peut rendre culte à Dieu en se prosternant ou en s'asseyant? Rendre culte signifie-t-il égrener le chapelet? L'adoration de Dieu signifie éprouver un tel amour pour Dieu que l'on fait disparaître sa propre personne. Tout d'abord, on doit avoir certitude en l'existence de Dieu et on doit connaître la beauté et les faveurs de Dieu. Et ensuite, on doit avoir un tel amour pour Dieu, et cet amour et cette ardeur doit perdurer dans le cœur, et on doit voir cela sur le visage, et on doit ressentir la grandeur de Dieu en son cœur et considérer le monde comme moribond. Et on doit lier toute peur à sa personne et on doit ressentir le plaisir dans la douleur pour Dieu. Et on ne doit pas attacher son cœur avec qui que ce soit que Dieu. C'est cet état qu'on appelle l'adoration de Dieu. Mais sans l'aide de Dieu, l'on ne pourra générer en soi ses qualités. C'est pour cette raison que Dieu nous enseigne cette prière, c'est-à-dire, nous t'adorons toi, mais comment pourrons-nous accomplir notre devoir envers cela sans ton soutien? Considérer Dieu comme son bien-aimé et l'adorer, voilà ce que signifie la walaya. Et il n'y a pas de niveau plus élevé que ça. Mais sans son soutien, l'on ne pourra atteindre ce niveau. On doit ressentir la grandeur de Dieu en son cœur et on doit placer sa confiance en Dieu et on doit préférer Dieu à toute autre chose. Et on doit considérer Dieu comme le but de sa vie. Et si on reçoit l'ordre, comme Abraham, de sacrifier son enfant, ou si l'on reçoit l'ordre de se placer au feu, on doit être prêt par amour pour Dieu à accomplir ses ordres. Et on doit faire tous les efforts pour avoir le plaisir de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de lacune dans l'obéissance que nous éprouvons pour Dieu. Cette porte est très étroite, cette boisson est très amère. Il y a peu de personnes qui traversent par cette porte, il y a peu de personnes qui boivent cette boisson. Il n'est pas difficile d'éviter l'adultère ou d'éviter d'assassiner une personne. Il n'est pas difficile d'éviter de donner de faux témoignages. Mais il est très difficile d'accorder prééminence à Dieu et d'accepter toute difficulté pour sa cause et de créer ses difficultés de ses propres mains. Seuls les siddiques peuvent atteindre ce niveau. Voilà l'ibada pour lequel l'homme a été créé. Celui qui atteint ce niveau dans le culte de Dieu reçoit quelque chose de la part de Dieu. Et cela est appelé Inam. Allah Ta'ala déclare dans le Saint-Coran, dans cette prière, « Ihdina surat al-mustaqim, surat al-lazina anamta alayhim » c'est-à-dire, « Ô notre Seigneur, montre-nous cette voie droite, la voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs, et accorde-nous ces grâces. » Selon la loi de Dieu, lorsque les services du croyant sont acceptés, il reçoit des faveurs en retour. Et les miracles et les signes que d'autres ne peuvent montrer font partie de ces grâces et de ces faveurs que Dieu accorde à ses serviteurs choisis. Qu'Allah nous donne la possibilité de suivre ces préceptes du Messie promis, alayhi salam, que nous puissions vivre selon ses attentes. Et que nous puissions faire des efforts, nous devons faire des efforts. C'est en faisant des efforts que Dieu va nous accorder ses faveurs. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi.